Thomas Nagy.
Bonsoir, c'est l'information majeure de ce lundi de Pâques. Le pape François, figure emblématique du catholicisme moderne, s'est éteint ce matin à 7h35. Il avait 88 ans. Le pontife argentin était sorti de l'hôpital le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une double pneumonie. Visiblement affaibli, il est apparu hier sur le balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Cela a donc été sa dernière apparition publique. Retour sur les principales étapes de la vie du pape François avec Stéphanie Wenker.
Jorge Bergoglio restera certainement comme le pape de la simplicité et du renouveau. Devenu François en 2013, il a été le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Le natif de Buenos Aires a bouleversé les codes en refusant les fastes du Vatican, privilégiant la proximité avec les fidèles. Il a multiplié les appels à la solidarité et à la paix, dénonçant les injustices et les dérives du monde moderne. Sa voix a aussi porté sur l'écologie. Homme de dialogue, il a tendu la main aux autres confessions, prônant une église plus ouverte et inclusive. Mais son pontificat n'a pas fait l'unanimité. Certaines de ses prises de position ont suscité de vifs débats, y compris au sein de l'église, notamment sur l'accueil des migrants, sa critique du capitalisme ou encore son ouverture prudente envers les divorcés remariés et les personnes LGBT+. Certains ont reproché au pape François d'aller trop loin, d'autres pas assez. Malgré ces controverses, son héritage marquera durablement l'histoire du catholicisme.
Et depuis l'annonce du décès du pape François, les réactions pleuvent à travers le monde. Les dirigeants du monde entier lui ont rendu hommage. Le pape François était un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les membres de la conférence des évêques suisses saluent de leur côté la simplicité du pape François. Et dans la région, le chanoine du Jura, Jean-Marie Nussbaum, était l'invité du journal de 12h15 et il nous a notamment confié l'image qu'il retient du pape François.
C'est le pape des périphéries. Voilà, j'aime bien cette idée du pape des périphéries qui va aux frontières et même au-delà à la rencontre de tous et de toutes et qui a ce souci vraiment de ceux qui sont au loin. Parce que quand on porte le souci de ceux qui sont au loin, automatiquement on englobe tous ceux qui sont tout près. Et je crois que c'est peut-être ça qu'on pourrait retenir du pape François et pour la mission de l'Église. C'est d'abord d'aller au loin pour pouvoir embrasser tous ceux qui sont entre là où on est et ceux qui sont au-delà des frontières.
Orlando Gaido est le seul prêtre argentin installé dans le Jura pastoral. Il est responsable de la mission catholique des langues espagnoles et portugaises du canton du Jura et de Moutiers. Le prêtre de 85 ans a connu personnellement Jorge Mario Bergoglio dans les années 70 et 80 en Argentine. Il explique comment il a appris ce matin le décès du pape François au lendemain de la dernière apparition publique du souverain pontife qui avait également brièvement rencontré le vice-président américain J.D. Vance. On écoute Orlando Gaido.
Je venais justement de lire dans le journal Clarín tout ce qu'il a répondu hier à Vince, et tout ce qu'il a fait, qu'il est sorti encore dans la place Saint-Pietro à saluer le monde. Et bon, après ça, je reçois un email d'un ami qui me parle de ça. Alors, je retournais à voir les notices et j'ai vu que vraiment ce matin à 7h30, il est mort. Et pour moi, ça m'a touché dans notre page de la mission espagnole et de la mission portugaise, seulement ça, que nous étions touchés aujourd'hui vraiment par la mort de notre aimé pape François. Et il fallait prier pas seulement pour son âme, mais pour le futur de l'Église.
Le lien que vous aviez avec lui, c'était un lien presque filial, on peut dire ça comme ça?
Oui, filial. En tant qu'évêque, pour moi, c'était merveilleux ce qu'il faisait, parce que vous savez bien qu'il était si humble qu'il n'habitait pas dans les palais des évêques de Buenos Aires, mais il habitait dans un appartement, il voyageait en tranvia ou en bicyclette. C'était une personne complètement humble.
Qu'est-ce qu'il a changé dans l'Église, le pape François?
Le pape François a changé les paradigmes de l'Église. La cosmovision, nous parlons en Latino-Amérique, que nous parlons plutôt cosmovision, la Weltanschauung des Allemands, et c'est-à-dire la façon de voir. Et puis, logiquement, l'Église des pauvres. Il était vraiment un représentant de l'Église des pauvres. Si vous pensez, par exemple, ce qu'il a fait, que jusqu'à ce moment, l'Église n'avait jamais fait, même des services pour les pauvres qui habitent à Rome, qui n'avaient pas où aller pendant l'hiver, lui pensait toujours aux pauvres.
Il a l'image aussi d'un pape réformateur. Est-ce qu'il a, à votre avis, suffisamment réformé l'Église?
Bon, je pense que non complètement. Beaucoup de réformes qu'il voulait faire, il n'a pas pu les faire parce qu'il y a beaucoup de contrariétés, pas seulement dans les cardinaux, mais aussi dans l'Église. Il y a beaucoup d'Églises, même l'Église de Nord-Amérique, c'était un peu contraire à tout cela. Et logiquement, l'Église, s'il y a quelque chose que l'Église n'a pas, c'est la pauvreté. Et alors, logiquement, entrer à vivre une Église des pauvres, c'est pas le bien pour beaucoup de personnes qui cherchent plutôt l'or et la richesse dans l'Église.
Orlando Gaido, prêtre argentin installé dans le Jura, était interrogé par François Comte. RFJ reviendra sur la mort du pape François demain dans la matinale avec la délégation épiscopale du Jura pastoral, la déléguée épiscopale du Jura pastoral Marie-André Beret, avec le jurassien Tanguy Ackermann, ancien garde du pape François, qui sera en direct dans nos studios à 8h15. Et une première prière publique pour le pape François aura lieu place Saint-Pierre à Rome ce soir à 19h30 heure suisse. C'est ce qu'a annoncé le Vatican. Le pape François sera mis en bière à 20h, le Vatican prévoit d'exposer sa dépouille mercredi à la basilique Saint-Pierre. Environ 800 personnes ont participé aujourd'hui à la marche de Pâques à Berne pour dénoncer le réarmement nucléaire et militaire. Les manifestants ont critiqué les milliards investis dans l'armée suisse, jugés inadaptés face aux menaces actuelles. Soutenus par des associations de gauche et ecclésiastiques, ils ont appelé à une politique de paix et à l'adhésion de la Suisse au traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est un ouvrage qui a l'habitude de côtoyer les superlatifs. La Bible de Moutier-Grandval, exposée actuellement au musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont, grâce à un prêt exceptionnel de la British Library, est une œuvre monumentale devenue une pièce de musée inestimable. C'est donc une vie en vitrine qui attend cet ouvrage, désormais autrefois destiné à transmettre la parole de Dieu. Le texte en latin est le fruit donc d'une traduction qui a aussi donné un sens différent à certains passages. On écoute Didier Béret, diacre et théologien bibliste.
Alors dans la Bible latine en général, oui, un peu. Saint Jérôme, il traduit en 420 après Jésus-Christ. Donc quand il traduit, il y a déjà le christianisme, il est chrétien. Donc il va avoir tendance aussi à relire certains textes de l'Ancien Testament comme s'ils concernaient directement Jésus. Et puis il y aura une tendance, par exemple, à messianiser certains récits ou à la place de, par exemple, à la place du mot salut, il va souvent employer le mot sauveur. Voilà, qui désigne directement Jésus sauveur plutôt qu'un salut un peu général. Donc ça fait partie des touches de Saint Jérôme, malgré le fait qu'il dit, et parce qu'il commente aussi sa manière de traduire, qu'il cherche à rester le plus fidèle possible, tout en évitant d'être trop littéral.
Et la Bible de Moutier-Grandval est à voir jusqu'au 8 juin au Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. Le Chœur de Chambre Jurassien poursuit sa mission d'intéresser la relève à l'aube d'une nouvelle série de concerts a cappella qui se tiendra fin mai. L'institution compte dans ses rangs une dizaine de membres fondateurs et plusieurs jeunes membres. La coprésidente Claire-Lise Nussbaumer explique le succès du chœur auprès de la jeunesse.
Quand les jeunes commencent de chanter dans le chœur de chambre, ils apprécient, ils continuent. Ça se remarque aussi au niveau des futurs professionnels, étudiants, que ce soit des instrumentistes ou même des futurs directeurs de chœur, qui apprécie aussi de travailler avec le chœur de chambre.
Vous devez aussi composer, vous l'avez dit tout à l'heure, avec une culture du chant qui n'est pas très importante dans notre région par rapport à d'autres. Vous pourriez l'expliquer ?
Dans la région, on n'est pas habitué à chanter d'office. Dans toutes circonstances, de faire partie d'un chœur, ce n'est pas habituel pour les enfants déjà à l'école, pour les jeunes non plus. On est peut-être plus habitué à la musique instrumentale ou évidemment au sport. Et pour la relève, il faut faire goûter au plaisir de chanter et d'avoir un beau résultat autour de la beauté, de la création et de l'art pour que ça donne envie de s'y mettre.
Claire-Lise Nussbaumer au micro de Marceline Michon. Le Chœur de Chambre Jurassien présentera notamment un concert le 24 mai au Collège Thurman à Porrentruy et le 25 mai au Villebrequin à Delémont. L'entrée est libre. Météo, le début de soirée devrait nous réserver un ciel changeant avec quelques averses possibles. Le temps s'annonce dans l'ensemble ensoleillé demain matin avec toutefois la présence de quelques bandes nuages. Le ciel devrait être un peu plus gris dans l'après-midi. Les températures se situeront entre 3 et 7 degrés demain matin, entre 13 et 18 degrés en seconde partie de journée. De dernières éclaircies sont attendues mercredi matin, mais les nuages devraient être plus nombreux dans l'après-midi avec des averses en fin de journée. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée.